Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui. Eric Manilakidza avec vous dans cette édition du mardi 22 mars 2022. Au sommaire, en Guinée, début des assises nationales, largement boycottées par plusieurs partis politiques. Au Burkina Faso, l'Assemblée législative de la transition est entrée en fonction ce matin. Au Mali, des partis réclament une enquête sur la mort de l'ex-premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga, décédé en détention. En Ukraine, la ville de Mariupol, toujours sous état de siège, et à Kiev, les habitants sont terrés dans les sous-sols. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le chef de la junte guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, a ouvert mardi une conférence de 6 semaines qu'il a présentée comme une occasion historique de panser les plaies d'un passé troublé, mais que nombre d'organisations politiques ont boycotté. Les détails avec notre correspondant Zakaria Kamara.
Plusieurs artistes se sont succédés devant les représentants des composantes de la nation guinéenne dans la salle du palais Mohamed V de Conakry. Religieux, politiques, acteurs de la société civile ont ensuite écouté les extraits du livre « La Guinée est une famille ». « La Guinée est une famille » a lancé l'auteur Nene Malia Kamara qui, tout comme le colonel Mamadi Doumbouya, est convaincu qu'il est temps que les Guinéens se parlent. C'est maintenant ou jamais que nos cœurs et nos esprits doivent se libérer, a dit le président de la transition. Une partie de la classe politique guinéenne était absente dans la salle et le colonel Mamadi Doumbouya de préciser que ces assises nationales sont au-dessus de toute considération politique, ethnique, religieuse de la nation. J'en appelle à l'implication des acteurs politiques, culturels, socioprofessionnels pour conférer à l'événement toute sa réussite, a conseillé Mamadi Doumbouya. Le mal est fait. Les plaies sont encore ouvertes, reconnaît le président de la transition, mais il recommande pour les 3 semaines de discussion des paroles réparatrices et libératrices. Zakaria Kamara pour VO Afrique, Conakry.
Au Burkina Faso, prise de fonction des 71 députés de l'Assemblée législative de transition au siège du Parlement en Ouagadougou, 2 mois après le coup d'État qui a renversé le président Roch Marc Christian Kabore. L'universitaire Aboubakar Touguyeni a été élu président de cette assemblée. Nathalie Barge.
La séance s'est tenue en présence des membres du gouvernement de transition nommé le 6 mars par le colonel Paul-Henri Damiba. Les députés ont été acclamés avant d'être installés par le doyen Jean-Hubert Bazier. Lors de cette session, l'universitaire Aboubakar Touguyeni a été élu président de l'Assemblée. Après le vote, il a déclaré que la transition devait asseoir les fondements pour une société plus juste et de moralisation de la vie publique. 21 députés ont été désignés par M. Damiba, 16 par les forces de défense et de sécurité, 13 par la société civile, 13 par les représentants des régions et 8 par les partis politiques. La mise en place de cet organe législatif fait suite à l'adoption début mars d'une charte de transition qui prévoit une période de 3 ans avant des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Les nouveaux députés seront chargés de voter les textes de réforme prévus avant les élections auxquels le président de la transition ne pourra pas se présenter.
Au Mali, une coalition de partis politiques réclame une enquête sur la mort de l'ex-premier ministre malien Soumaïlou Boubey Maïga. Il est décédé hier en détention malgré les appels pressants de ses proches pour son évacuation sanitaire vers l'étranger. Les détails avec Nanit Talani.
La direction du cadre d'échange estime que Soumaïlou Boubey Maïga est mort en détenu politique dans des conditions très troublantes et exige l'ouverture d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur les circonstances de son décès et situer les responsabilités. Le cadre rappelle que les autorités de Bamako n'ont pas donné de suite favorable aux nombreuses demandes d'évacuation alors que les médecins avaient prévenu sur les risques liés à son état de santé. Ses proches demandaient qu'il soit autorisé de toute urgence à aller se faire soigner à l'étranger, mais les autorités n'ont jamais donné suite à cette requête. On a comme l'impression que c'est un assassinat programmé, affirme son frère Tchegoum Boubey Maïga. La dépouille du défunt n'a toujours pas été rendue à la famille en raison de divergences sur la question d'une autopsie. Soumeilou Boubey Maïga est décédé hier dans une clinique de Bamako. Il était en détention depuis août 2021 suite à son inculpation pour escroquerie, faux et usage de faux. Le gouvernement a présenté ses condoléances à la famille et a salué la mémoire du grand serviteur de l'État.
L'ex-chef d'un groupe armé anti-Balaka, Maxime Mokom, a comparu mardi pour la première fois devant la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes commis en Centrafrique en 2013 et 2014. Monsieur Mokom est notamment suspecté de meurtre, extermination, déportation de population et emprisonnement. Son avocat a déclaré que Monsieur Mokom avait été maltraité lors de son transfert par les autorités tchadiennes. Human Rights Watch a demandé mardi au gouvernement ougandais la fermeture des centres de détention illégaux utilisés par les services de sécurité pour réprimer l'opposition. L'ONG dit avoir recueilli les témoignages de 51 personnes, dont 34 anciens détenus et témoins d'enlèvement, qui ont décrit les abus dont ils ont été victimes entre les mains de la police, de l'armée et des services de renseignement. Une dizaine de fonctionnaires de l'ex-administration provisoire du Tigré, région du nord de l'Éthiopie, ont été emprisonnés récemment à Addis Abeba. Cette administration a été mise en place par le gouvernement fédéral à l'issue de l'offensive militaire lancée en novembre 2020 qui avait destitué les autorités dissidentes Front de libération du peuple du Tigré.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La magistrate africaine-américaine Ketanji Brown Jackson s'est vigoureusement défendue mardi face aux accusations de laxisme portées par des élus républicains lors de l'examen de sa candidature historique à la Cour suprême. Nommée par le président Joe Biden, la juge Jackson, 51 ans, doit obtenir le feu vert du Sénat avant de devenir la première femme noire à siéger au sein de la haute juridiction. Selon un sondage Politico Morning Consult, 47% des Américains souhaitent qu'elle soit confirmée et seuls 19% s'y opposent. En Ukraine, un nouvel effort est tenté pour l'évacuation des civils de la ville de Mariupol, tandis que le président Zelensky se dit prêt à un compromis sur la Crimée et le Donbass. Claire Morejbourg.
Les autorités ukrainiennes ont annoncé aujourd'hui l'ouverture de 3 couloirs humanitaires entre la ville de Zaporojie et des localités proches de Mariupol pour tenter d'évacuer les civils. Des habitants ont décrit un enfer glacial avec des rues jonchées de cadavres et des milliers de personnes coupées du monde, terrées dans des sous-sols sans eau, nourriture, électricité ni communication. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine d'un compromis sur le Donbass et la Crimée pour arrêter la guerre. Il a déclaré que l'Ukraine n'est pas acceptée dans l'OTAN car ses membres ont peur de la Russie et que son pays doit trouver d'autres garanties de sécurité. Le Kremlin a jugé de son côté que les pourparlers en cours avec Kiev n'étaient pas assez substantiels. Les autorités militaires de Kiev affirment que l'armée russe a renforcé sa présence dans l'espace aérien de l'Ukraine. Le porte-parole du Pentagone a précisé que des contre-offensives des soldats ukrainiens ont permis de reprendre du terrain sur les troupes russes dans le sud du pays.
Plus de 3,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine. Les combats déclenchés par l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon le décompte de l'ONU, publié mardi. Le journaliste russe Dmitri Moratov a annoncé mardi que la médaille de son prix Nobel de la paix 2021 sera proposée lors d'une vente dont les bénéfices iront aux réfugiés ukrainiens et blessés de l'offensive du Kremlin. L'opposant russe Alexei Navalny a promis mardi de poursuivre sa lutte contre le Kremlin et estimé que Vladimir Poutine avait peur de la vérité dans une série de tweets publiés juste après sa condamnation à 9 ans de prison pour escroquerie et outrage à magistrat. Poutine a peur de la vérité, je l'ai toujours dit. La lutte contre la censure, amener la vérité aux habitants de la Russie, restait notre priorité, a-t-il écrit. La junte au pouvoir en Birmanie a rejeté catégoriquement mardi la déclaration faite la veille par les États-Unis, selon laquelle les Rohingyas ont été victimes d'un génocide perpétré par l'armée birmane en 2016-2017. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, nous retrouvons Nanit Sylvani Talani pour la Minute Éco.
En République démocratique du Congo, des infrastructures sociales, des centres de santé ainsi que des centres de rattrapage scolaire et de formation professionnelle seront construits cette année par le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de cobalt. Le projet a déjà identifié dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga plus de 14 000 garçons et filles, leurs parents et plus de 6 000 jeunes qui sont tous impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de cobalt. Au Soudan, une mine d'or improvisée dans la ville de Talodi s'est effondrée mardi dernier, tuant 13 mineurs et en blessant plusieurs, a déclaré à Reuters un responsable de la Société soudanaise des ressources minérales. La mine n'était pas aux normes. Les mineurs et les habitants de la région ont refusé la surveillance du gouvernement, selon Warsha Nassir, responsable du corps d'affaires du Sud pour l'entreprise gouvernementale. La demande de gaz naturel et liquéfié devrait presque doubler pour atteindre 700 millions de tonnes d'ici 2040, a déclaré Shell dans ses perspectives annuelles du marché du gaz naturel liquéfié. Le commerce mondial de ce gaz en 2021 avait augmenté de 6% en glissement annuel pour atteindre 380 millions de tonnes.
Nous passons directement à votre page des sports. Yacouba Ouédraogo, bonsoir.
Bonsoir à tous. Coup dur pour la Tunisie à 3 jours de sa double confrontation contre le Mali en barrage du Mondial Qatar 2022. La Fédération tunisienne de football annonce les forfaits du défenseur central Dylan Brown de FC Metz et de l'attaquant Wabi Kazri de Saint-Etienne, blessé et indisponible pour la double confrontation. Les Tunisiens pourront par contre compter sur Naïm Sliti et Elias Cherki, blessé en club. Sliti a participé à l'entraînement dimanche et Cherki arrive à Tunis aujourd'hui. Les Aigles de Carthage affrontent leurs homologues maliens les 25 et 29 mars prochains. Sébastien Coué, le président du World Athletics, exprime sa crainte de voir le sport féminin fragilisé par la participation de transgenres qui pourrait fausser l'équité des performances selon lui. D'après le patron de l'athlétisme mondial, au-delà des débats de société et des questions d'éthique que soulève la présence des sportives transgenres dans les compétitions, le genre ne peut pas l'emporter sur la biologie. Le règlement de la Fédération internationale d'athlétisme à la matière actuellement est qu'une sportive transgenre doit prouver qu'elle a un niveau de testostérone très bas dans l'année qui précède la compétition à laquelle elle veut participer, en fournissant régulièrement pendant ces 12 mois des bulletins médicaux réguliers. Sa prise de parole intervient quelques jours après la performance réalisée par Lia Thomas, une nageuse transgenre américaine au championnat universitaire américain à Atlanta en Géorgie. L'étudiante, née de sexe masculin, est devenue la première nageuse transgenre à remporter un titre universitaire en remportant le 500 yards nage libre en 4 minutes 33 secondes. Lia Thomas, qui avait dans le passé concouru en tant qu'homme, divise l'opinion publique aux États-Unis, ses détracteurs estimant qu'elle bénéficie d'un avantage physiologique injuste. NBA, de retour à Cleveland, LeBron James a réalisé un triple-double à 38 points, 11 rebonds et 12 passes décisives pour porter les Lakers à la victoire 131-120 face aux Cavaliers. Philadelphie a remporté le duel au sommet face aux Heat de Miami 113-106, malgré l'absence du Camerounais Joel Embiid, souffrant de pépins physiques et laissé au repos. À New York, Kevin Durant a pris les choses en main avec 37 points, 9 rebonds et 8 passes décisives pour mener les Nets à la victoire dans un gros duel face aux Jazz de Utah, remporté 114-106. Dans les autres rencontres, les Bulls ont battu les Toronto Raptors de l'autre Camerounais Pascal Siakam 113-99 et les Celtics l'ont emporté 132-123 à Oklahoma City. Les Dallas Mavericks sont sortis victorieux du duel 110-108 face aux Timberwolves du Minnesota. À noter aussi la victoire des Rockets 115-97 face aux Wizards et celle de Portland 119-115 à Détroit.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manilakiza. Place au dossier du jour. À Tombouctou, les réactions se sont multipliées après le décès de l'ancien premier ministre du Mali, Soumeilou Boubey Maïga. Certains disent s'en remettre à Dieu. D'autres pensent qu'on aurait pu éviter le pire s'il avait été évacué vers l'étranger pour se faire soigner. D'aucuns suggèrent l'ouverture d'une enquête pour élucider les conditions dans lesquelles il est mort. Al-Husseini Al-Hajj pour les détails à Tombouctou.
Et tout le monde se souvient de lui en face du dictateur Feu Moussa Traoré avec ses questions pertinentes qui à l'époque n'étaient pas faciles pour une première tâche de l'homme que le Mali en témoigne. Et aussi il fut un acteur dans la révolution, de tout, dans toutes les révolutions en fait, qui ont mené le Mali là où il a réussi surtout une démocratie stable dans le pays.
Soumeilou Boubey Maïga, déjà c'est un grand homme, c'est un grand politicien qui a beaucoup contribué en matière de démocratie ici au Mali. Depuis le départ de la démocratie jusqu'à nos jours, il a participé avec tous les chefs d'État.
Ça suscite une émotion, une vive émotion, ça suscite des interrogations, ça suscite beaucoup de questionnements au niveau de l'opinion nationale, de la classe politique, des amis de Boubey à travers le monde.
On nous a toujours dit que les chefs d'État, les personnalités ont leur prison à part, résidence surveillée. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment Soumeilou Boubey Maïga se retrouve là où il y a les grands bandits, il y a les djihadistes, il y a les grands voleurs. Et jusqu'à demain, je continuerai à me poser la question. Pourquoi Soumeilou se retrouve? Ça m'a traumatisé même.
8 mois de détention sans procès. Et souvent, on a l'habitude d'entendre sa femme, Bintou Yatassaï, qui vient dire que elle ne peut pas visiter son mari, non moins ses parents ou ses proches et autres. Et vraiment, ça, je trouve ça très absurde et sombre. Yangui Souroge, un prisonnier, a droit à la visite.
Que ce soit on l'amène à l'étranger ou que ce soit ici à Bamako, c'est comme ça qu'il doit partir. Donc moi, je ne prends pas que c'est la détention qui a provoqué sa mort ou quelque chose comme ça.
Il est urgent que les autorités de la transition, dans le souci de préserver la crédibilité de notre pays, la crédibilité des autorités de la transition, fassent une enquête pour déterminer et élucider les conditions de son décès.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique, à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
Au Burkina Faso, l'Assemblée législative de la transition est désormais fonctionnelle. Les députés ont validé ce matin leur mandat. L'universitaire Aboubakar Tougouyeni a été élu président de cet organe de transition. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Ici à l'hémicycle, les 70 membres que compte cette assemblée ont élu Aboubakar Tougouyeni, âgé de 58 ans, un ancien chercheur, comme président de l'Assemblée législative de la transition. Cet inconnu du grand public fait partie des choix du président Damiba pour entrer à l'Assemblée législative. Le nouveau patron du Parlement définit sa priorité majeure.
Mon mandat sera inscrit dans le sens de l'engagement pour le pays dans sa quête de sécurité, de dignité et d'honneur. Je sais que c'est une transition pour asseoir les fondements pour une société plus juste et de moralisation de la vie publique. Avec mes collègues de l'ALT, je veillerai au contrôle de l'action du gouvernement, à la défense des intérêts du peuple et nous prendrons aussi l'initiative de propositions de loi ou toute autre action allant dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation.
Les membres de l'Assemblée législative de la transition sont tous conscients des difficultés du pays. Abdoulaye Soma, nouveau député.
S'il y a une reconstruction du Burkina Faso qui passe par le droit, je pense que du point de vue national, j'ai un avantage comparatif, j'ai les compétences acquises avec le soutien du peuple burkinabé en matière de droit constitutionnel, en matière de réforme législative, en matière d'expérience de gestion de la transition que je me suis imposé pour obligation de mettre à la disposition de la nation burkinabé en ce moment précis de notre histoire et nationale.
Haruna Loure, nouveau député.
Le souhait vraiment, c'est qu'il soit un homme convaincu, un homme courageux qui prend des décisions difficiles quand il le faut pour que le pays puisse avancer. Notre approche, c'est de défendre ce que nous avons toujours défendu, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, les vols, les gabegies dans toutes les institutions de l'État. C'est de pouvoir faire des propositions de loi qui vont dans ce sens-là.
Nkuraba Youl, une députée.
Notre mandat a été validé, donc on est là pour 3 ans et je pense que ça passe vite. Donc il faut aller directement à l'action, c'est-à-dire voir les priorités. Donc tout le monde connaît déjà, c'est restaurer le Burkina. ramener les gens, les personnes déplacées dans les rues.
L'ensemble des institutions de la transition sont désormais fonctionnelles. Après la nomination d'un premier ministre, un gouvernement et de l'Assemblée législative de la transition, place maintenant au travail. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Les pourparlers au dialogue national au Tchad, qui se tiennent à Doha au Qatar, ont repris ce mardi. Présent à Doha, Mahamat Ali Youssouf, président de l'Union des mouvements pour la démocratie et le développement, affirme avoir demandé au Qatar d'être médiateur dans ce dialogue entre forces politico-militaires et autorités tchadiennes. Yacouba Ouédraogo a joint Mahamat Ali Youssouf à Doha.
Bon, les autorités qatariennes nous ont invités, ils nous ont envoyé des messages à travers le réseau WhatsApp hier nuit vers minuit à nous convier à une réunion à 10h matin dans la grande salle de l'hôtel. Là, on vient dans la salle, on voit le gouvernement aussi là, il était invité. On a fait des débats, des discussions et arrivé à obtenir que Qatar sera donc le médiateur entre les Tchadiens, entre les oppositions armées et le gouvernement du Tchad.
Qui sont ceux qui étaient dans la salle pour ce prix dialogue?
Bon, le comité technique du gouvernement du Tchad et la délégation gouvernementale et les oppositions politico-militaires sont au nombre de 52. Et le gouvernement du Qatar aussi, les médiateurs avec son équipe.
Qu'est-ce que vous revendiquez aux autorités tchadiennes de N'Djamena?
Pour nous, les politico-militaires, il est important de nous faire un pas pour l'unité, la paix au Tchad. Cependant, pour arriver à cela, il nous paraît essentiel dans le cadre de ces dialogues qu'il soit prévu de la modification de la charte. Si cette charte, cette disposition introduite est modifiée, donc nous sommes prêts à déposer les armes et rentrer au Tchad et assister à la réunion dialogue inclusif avec les autres de la société civile. Avec le monde.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on retire ou qu'on ajoute à la présente charte de la transition?
Il faut que ceux qui commandent aujourd'hui le pays ne puissent pas participer à l'élection libre et transparente. Donc, ne pas être juge et parti. Après, donc, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu et aussi la libération des prisonniers, des guerres. Ça, c'est important. Je pense que le premier, c'est qu'il faut notre sécurité aussi. Ça, c'est Qatar et la communauté internationale vont prendre notre charge. Sinon, on ne peut pas descendre à N'Djamena. On veut aussi organiser une armée nationale.
Vous pensez que l'armée n'est pas nationale?
Pour nous, ce n'est pas national parce que vous connaissez bien aussi, vous savez aussi, depuis 30 ans, l'armée est une armée clanique. Réformer l'armée nationale en réduisant le tribalisme et l'ethnisme. Donc, pour nous, pour l'instant, l'armée n'est pas nationale. Donc, on a un projet pour l'armée, pour que les non-combattants ou non-armés rentrent dans cette armée. Il faut restructurer cette armée. Maintenant, c'est une armée qui est commandée par une seule ethnie, alors qu'on est 100 quelques.
Quand vous dites une armée qui est commandée par une seule ethnie, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Quand vous voyez la figuration de l'armée nationale, qui est le chef d'état-major, qui est le directeur des DGC, qui est le qui commande les forces anti-terrorisme. Donc, c'est le même ethnie. Donc, nous, on veut une ouverture.
Quelle ethnie?
L'ethnie de l'ancien président, le président actuel. Le problème du Tchad, c'est le problème de l'armée qui a confisqué tout le pouvoir. C'est ça, on n'est pas capable de faire des manifestations à l'intérieur du pays, même à l'extérieur, on ne fait pas les manifestations civiles de violence. C'est ça, c'est l'armée. Il faut que ça soit une armée nationale. Dans un premier temps, il faut que ça soit une armée nationale et tous les autres mouvements qui sont à l'extérieur de la frontière centrafricaine, Soudan. La Libye, il faut une réforme de l'armée pour que les autres rentrent dans l'armée.
Mahamat Ali Youssouf, président de l'Union des mouvements pour la démocratie et le développement.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'accès à l'eau potable en Afrique dans un contexte de changement climatique. Le 9e Forum mondial de l'eau se tient du 21 au 26 mars à Dakar sur le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». Alors qu'en Amérique du Nord, un habitant a accès en moyenne à 250 litres par jour, dans le Sahel, le ratio est d'une personne pour moins de 10 litres. Comment résoudre la question de l'accès à l'eau potable en Afrique? Comment éviter qu'il ne soit source de conflits entre pays ou entre communautés? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le 9e Forum mondial de l'eau organisé à Dakar ne réunit pas tous les acteurs. Le maire de Dakar a décidé d'organiser des activités parallèles pour, dit-il, dénoncer sa mise à l'écart par le pouvoir central. Le 9e Forum mondial de l'eau se tient à Djamiadjo. De notre correspondant à Dakar, c'est Dina Bagay.
L'eau à Dakar, Dakar dans les eaux, c'est le thème choisi par le maire de la capitale pour son forum de l'eau qu'il organise en marge du 9e forum mondial. Le maire Barthélémy Diaz a fait le tour de quelques communes dont la baie de Anne, où il s'est offusqué de la pollution causée par certaines entreprises.
Ce n'est pas normal que des entreprises connectent leurs tuyaux d'évacuation des déchets solides et liquides aux canaux d'évacuation des eaux pluviales. C'est l'une des causes de la pollution de la baie de Anne et il est temps que l'État réagisse et sanctionne ces sociétés car on les connaît tous, mais les collectivités locales n'ont pas les prérogatives pour intervenir. Je pense qu'il est temps que les grandes entreprises sachent qu'il est inconcevable de se faire énormément d'argent en mettant en péril l'écosystème et le bien-être des populations. Il faut que cela cesse.
Un peu plus tôt, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, avait indiqué que le forum de Dakar devait être pourvoyeuse de réponses concrètes et non de résolutions qui ne seraient pas appliquées.
Il est de la responsabilité de la ville de Dakar de ne pas être un consommateur passif de réponses, mais un acteur qui s'engage vers des solutions durables en cohérence avec les 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Cet engagement de la ville se traduit notamment par l'initiative du développement d'un leadership dans le cadre de l'intercommunalité qui mettra en synergie les ressources des 19 communes de Dakar pour répondre aux aspirations légitimes des citoyennes et citoyens de nos territoires en termes d'accès à l'eau potable et de prévention des inondations.
Pour une meilleure prise en charge de la problématique de l'eau, les élus réunis autour du maire de Dakar appellent l'État à davantage appuyer les collectivités locales pour apporter des solutions durables aux difficultés des populations. Ahmed Aïdara, maire de la ville de Guédiouaï.
Il y a un type de problème au Sénégal, surtout à Dakar et sa banlieue, concernant l'eau. Un, il y a les inondations. Secondo, il y a les factures salées. Tu n'as pas d'eau, mais tu as toujours des factures salées. Ce qui est un peu contradictoire. Mais aussi, il y a la qualité. Il y a aussi le problème de l'assainissement qui ne fait pas du tout partie des 9 domaines de compétences transférés. Mais malheureusement, ce sont les élus, les maires, qui poussent les pots cassés.
Pour le maire de Dakar et certains de ses homologues de la capitale, le Forum mondial de l'eau se veut un forum des réponses et un cadre approprié pour la prise en compte des aspirations les plus profondes des populations dans leur diversité. C'est Dina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Manila Gaïma, Georges Léonard Sagno. À la présentation, Eric Manila Kizza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.